Bienvenue sur le podcast Heureux au présent. Je m'appelle Pascal Kionkion et je vais vous accompagner pour créer votre bonheur et vivre votre vie en mieux. C'est la toute première semaine de l'année. Je vous retrouve pour cette troisième saison Heureux au présent, que le temps passe vite. Et il va de soi que nous parlions de prendre de bonnes résolutions. C'est pourquoi le titre de ce premier rendez-vous de l'année est « Prendre la bonne résolution de tenir vos bonnes résolutions ». Bonjour et quel plaisir de vous retrouver. Il va de soi que je vous dise meilleurs vœux, mais patientons un petit peu parce que je vais le formuler à la fin de ce premier rendez-vous dans lequel j'ai vraiment, comme je l'ai dit, beaucoup de joie à vous retrouver. On a vécu des périodes de fin d'année un petit peu particulières. Personnellement, c'est la première fois que je reste une semaine sans venir à votre rencontre avec un rendez-vous, donc ça m'a un petit peu manqué. Évidemment, j'ai pensé à vous, mais j'avais besoin de faire un break. Ça m'a fait du bien et peut-être que ça vous a fait aussi du bien de pas m'entendre parce que je pense que certains étaient occupés à plein d'autres choses qui concernent leur vie de famille et je peux l'imaginer. Aujourd'hui, parlons de bonnes résolutions. Et si vous vous mettiez en mesure de mettre fin à la tradition qui consiste à prendre de bonnes résolutions et qui ne dépassent pas la fin du mois, ben je vous assure que c'est possible. Et vous vous rendrez peut-être compte que c'est possible en suivant les conseils que je vais vous donner pendant ce rendez-vous. Je pourrais prendre un peu de temps pour vous expliquer la raison pour laquelle les bonnes résolutions sont difficiles à tenir. Il y a de nombreuses raisons et nous en avons l'expérience puisque j'imagine que les années précédentes, vous avez pris de bonnes résolutions dont plusieurs n'ont pas été tenues. J'ai choisi de vous proposer de prendre la bonne résolution, de tenir vos bonnes résolutions. Mais à vrai dire, j'irai plus loin que cela. En effet, je vous donnerai les moyens de les tenir parce que c'est quand même ça qui est génial. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez compris que vous avez de la difficulté à tenir vos bonnes résolutions, bien qu'il arrive de les tenir malgré tout. Je pourrais me centrer sur là ou les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à vous y tenir. Et personnellement, je voudrais aller dans une direction qui soit plus féconde que celle de savoir si vous prenez ou pas de bonnes résolutions, que vous tiendrez peut-être quelques semaines, quelques jours, quelques mois, pour être optimiste. Focalisez notre attention sur les raisons pour lesquelles vous n'arrivez pas à tenir vos bonnes résolutions pourrait être la question, mais le savoir uniquement ne résoudra pas notre problème. C'est un peu le fond de la démarche de surface de certains accompagnements thérapeutiques avec lesquels vous vous centrez sur le pourquoi en regardant en arrière, dans le passé, tentant d'identifier les influences de vos parents, de vos enfants, de votre famille, de votre milieu, de votre culture, sans répondre à la problématique présente, qui répondrait plutôt par « comment ?» comme c'est le cas de la question que nous nous posons. « Comment puis-je faire pour tenir de bonnes résolutions ?» Il existe des articles, des livres qui se sont arrêtés sur la raison pour laquelle on ne tient pas nos bonnes résolutions de début d'année, mais au-delà de cette recherche, même si elle peut être intéressante pour une question de culture générale, je pense qu'il est vraiment préférable de faire des choix, de prendre des décisions et de savoir comment faire pour s'y tenir. Quels sont donc les facteurs qui feront que vous tiendrez vos prochaines résolutions? Le facteur principal pour tenir une résolution n'est pas du tout la volonté. J'entends beaucoup de personnes dire « oui, mais c'est une question de volonté, j'aimerais bien avoir tant de volonté qu'un tel ». Eh bien non, pas du tout, absolument pas. La raison principale qui fait que l'on tient une décision prise, c'est l'amour. Ça peut vous faire un petit peu bizarre, puisque d'habitude on applique l'amour à une personne. Et si c'est plus facile pour vous, je peux utiliser le mot « passion ». Ce que je trouve intéressant dans la passion, c'est sa très grande force, elle peut s'avérer telle que sous son emprise, nous pouvons être amenés à passer par des moments de souffrance pour continuer à assouvir ou à pratiquer notre passion. D'ailleurs, quand on parle de la passion, une des plus célèbres est la passion du Christ. C'est bien l'illustration d'une souffrance liée à une résolution déterminée de faire une chose à laquelle on tient, malgré le prix à payer. Quand on aime, ou quand on a une vraie passion et que l'on aime profondément une chose, on est prêt à tout faire, à y mettre le prix, à faire ce qu'il faut pour que rien ne nous empêche d'y accéder. Et quand on aime une chose, une vision, eh bien, on a fait un choix par rapport à une valeur, à une direction, une résolution, on la mettra en œuvre quel qu'en soit le prix. Parce que la passion n'a pas de prix. En France, on dit que quand on aime, on ne compte pas. C'est une réalité véritablement fondamentale qui peut vous permettre de vous poser la question suivante. Comment cela se fait-il que je n'ai pas tenu mes résolutions passées alors que je pensais sincèrement les respecter? La raison est que vous ne les aimiez pas. Ce n'est pas parce que vous ne les aimiez pas que vous ne les aimerez pas. Cela veut juste dire que vous ne les avez pas assez aimés jusqu'à maintenant. Vous pouvez apprendre à les aimer, même si jusqu'à maintenant, c'était laborieux. Et cela conduit à deux autres questions. Comment faire pour apprendre à aimer cette chose que vous n'aimiez pas jusqu'à présent? Et comment faire pour l'aimer et faire que cela devienne une véritable passion? Ces deux questions vous projettent sur le présent et l'avenir en même temps. Comprenez que vous pouvez déjà regarder votre attitude précédente en vous disant « c'est vrai que ça ne me plaisait pas ». Quand ma mère me disait de faire ceci ou de faire cela, je ne l'ai pas fait parce que je ne l'aimais pas. Ou quand mon conjoint me disait de faire attention à ceci et à cela pour les enfants ou de devenir sensible à tel ou tel aspect de notre relation conjugale, je ne l'ai pas fait parce que je n'aimais pas cette vision, cette action. Même quand j'ai décidé de changer, je ne l'ai pas fait parce que je n'aimais pas assez le résultat qui m'attendait. Quand vous aimez quelque chose, vous le faites sans compter. Bien entendu, quand on vous propose de changer ou quand vous avez décidé de changer de votre propre initiative, vous vous mettez en mouvement. À supposer que vous disiez « je vais faire des économies » ou « je vais m'investir davantage dans la maison » ou « je serai plus raisonnable dans la gestion de mon temps », vous pouvez vous demander « comment vais-je faire ?» Si je prends l'exemple de la gestion du temps, comment vais-je faire quand je rentrerai à la maison ou quand je serai au travail? Est-ce que je devrais prendre du temps pour moi, prendre du temps pour faire du sport et donner davantage de place à des loisirs? Comment faire? En fait, je réalise que je ne le fais pas parce que je n'aime pas. Mais qu'est-ce que je n'aime pas au juste? En fait, une tension se joue entre deux univers, le manque ou l'absence d'amour, et la peur. Or, la peur en question est celle qui correspond à une peur de vivre autre chose, d'être quelqu'un d'autre que celui que vous êtes et que vous connaissez. Finalement, vous aimez tellement votre situation présente, qui vous rassure, que vous n'avez pas envie de changer. Vous n'aimez pas suffisamment la personne que vous deviendrez si vous mettez en place ce changement. Et en conséquence, logique, vous restez comme vous étiez avant. Par conséquent, en prenant une bonne résolution, si vous estimez que ce que vous vivez n'est quand même pas si mal, que c'est bien finalement, et que ce n'est pas si embêtant que ça, eh bien vous ne changerez pas. Vous pouvez le savoir d'avance. Par contre, si vous estimez que la situation à venir sera considérablement meilleure et que ce que vous vivez est minable comparé à ce qui vous attend, vous changerez. On est dans une réalité que l'on pourrait appeler la réalité de la carotte, mais que je trouve plus profitable, plus positive d'appeler la réalité du bénéfice. On agit quand on estime que ce qui nous attend sera meilleur que ce que l'on connaît actuellement, que ce que l'on aura sera meilleur que ce que l'on a. Ça me fait penser à une chanson de Frank Sinatra qui s'intitule « The best is yet to come », qui signifie « le meilleur reste à venir ». Et si vous êtes dans une dynamique qui pense que le meilleur reste à venir, vous procéderez à des changements et entrerez dans une dynamique du changement en quasi-permanence. Par contre, si vous êtes dans une absence de dynamique qui consiste à penser que vous êtes quand même bien dans ce que vous vivez, eh bien vous ne changerez pas. Vous resterez les mêmes. Vous ne verrez que des changements minimes sans conséquence émerger dans votre vie. Supposez qu'il y en ait quelques-uns qui émergent. En appliquant les mêmes méthodes que celles que vous appliquiez hier, avant-hier, l'année dernière et il y a 5 ou 10 ans, vous obtiendrez les mêmes résultats qu'hier, avant-hier et qu'il y a 5 ou 10 ans. Quelle que soit la résolution que vous prendrez, posez-vous la question de savoir si vous aimez déjà la personne que vous serez quand vous vivrez pleinement ce que vous voulez vivre. Alors votre projection correspond-elle à une personne que vous aimez déjà? Encore une question. Est-ce que vous aimez déjà l'ambiance, la couleur, l'odeur, le milieu dans lequel vous serez? Aimez-vous déjà votre manière d'agir ou de réagir quand vous serez installé dans votre changement décidé? Est-ce que vous l'aimez déjà? Si vous pensez à des personnes qui peuvent vous servir de mentor, utilisez-les pour vous dynamiser. Faites-le même si vous ne les croisez jamais. Prenez d'elles ce qui vous plaît et récupérez ce que vous aimez et qui vous incite à aimer la nouvelle dimension que vous intégrez dans votre vie. J'insiste bien, même si vous ne les connaissez pas du tout, vous n'en avez qu'une idée apparente, mais même l'idée est déjà plaisante. Souvenez-vous des nombreuses choses que vous avez goûtées, que vous n'aviez jamais goûtées avant, et avant même de les goûter, vous aviez déjà une idée du fait que ce serait bon. Ça fonctionne de la même manière. Dans ma pratique de sophrologue, je travaille sur ce qu'on appelle la visualisation, et j'invite une personne à décrire comment elle se voit, quand elle sera dans la situation attendue, avant même qu'elle y soit véritablement. Par exemple, si elle me dit « je voudrais être sereine lorsque j'irai à mon entretien d'embauche hein », eh bien je demanderai à cette personne de me répondre en lui posant plusieurs questions. Et la première, quand vous vous voyez sereine à votre entretien d'embauche, qu'est-ce que vous voyez? Décrivez-moi votre attitude physique. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Elle me donnera donc des postures et des sensations physiques et corporelles. Et à partir de là, je construirai une projection de ce que sera cette personne au moment où elle se sentira sereine à son entretien d'embauche. Ensuite, je lui poserai la question suivante. Quelles seront vos pensées à ce moment-là? Et elle pourra me répondre en me disant « Bien, je penserai ceci, je penserai cela ». Je lui demanderai alors « Quelles sont les capacités que vous avez acquises pour être sereine à ce moment-là ? » Elle me dira qu'elle se sentira capable de ceci et de cela. Vous voyez que l'on touche à la fois à un ressenti corporel, une posture physique, une perception, sensorielle bien sûr, hein, je suis dans tout ce qu'on est en train d'évoquer jusqu'à maintenant, mais également des émotions, du potentiel et des acquisitions. Si vous voulez vous mettre en mouvement vers une bonne résolution, projetez-vous dans ce que vous voulez être. Commencez à aimer la personne que vous serez quand vous aurez mis en pratique ce que vous voulez vivre. Que ce soit sur le plan physique, des sensations corporelles, des pensées, des émotions, en aimant au présent ce qui correspond à votre futur, vous entrez dans ce que l'on appelle une comparaison ascendante. Vous savez déjà comparer votre état entre celui d'aujourd'hui et celui que vous serez bientôt. Vous pouvez même aller plus loin dans la comparaison ascendante en vous disant que vous allez vous projeter dans la situation dans laquelle vous serez en vivant aujourd'hui comme quelqu'un qui a déjà acquis les potentiels, les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être auxquels vous tendez. Certains pourraient avoir l'impression d'une fourberie, d'une imposture ou d'une drôle de blague. Imaginez qu'elles sont déjà au présent, ce qu'elles veulent être au futur les ferait sourire. Pourtant, cette approche est vécue de manière naturelle. Vous n'avez pas besoin d'y penser. Dès que vous aimez la chose vers laquelle vous tendez, vous la vivez. Déjà enfant, vous fonctionniez comme ça. Et ça vous a beaucoup aidé pour l'acquisition de nombreuses choses. Cette pratique de la comparaison ascendante se vit dans les enseignements supérieurs, par exemple. C'est le cas en fac de médecine, comme dans d'autres universités d'ailleurs. Mais en première année, certains profs disent aux élèves, en tant que médecin, vous devez connaître tel contenu et adopter telle approche. Or, les profs savent très bien qu'il n'y a aucun médecin devant eux. Un nombre considérable des élèves qui sont dans l'auditorium ne seront même pas en deuxième année. Beaucoup des professeurs savent que le taux de perte est d'environ 20% entre la première et la deuxième année. En 2017, il était de 22%. Cette technique de la comparaison ascendante est utilisée de manière naturelle parce qu'elle permet aux personnes de faciliter une appropriation. Elle consiste en une forme de jeu de rôle au réel. Et ce jeu permet à n'importe qui de se plonger dans une réalité qu'il peut faire sienne au présent. Si je reviens sur un de mes exemples, je pourrais prendre celui qui touchait aux exercices physiques. Je me dirais alors, je prends la bonne résolution de faire davantage d'exercices physiques. Ajoutons que je peux déjà commencer par me poser la question sur la posture de mon corps. Je peux me visualiser en train de pratiquer l'exercice physique. Je peux aussi me voir après avoir pratiqué mon exercice physique. Comment je vois mon corps? Je peux donc me décrire physiquement, décrire mon attitude, dynamique ou pas. Je peux le faire pour ma tenue de sport et me voir courir et sauter à la corde, par exemple. Mais je peux me voir en plein exercice ou en post-exercice, libre à moi. Vous voyez, je suis en train de projeter ma posture physique comme si j'étais en train de m'observer dans l'action. Ensuite vient le moment de me demander qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Alors je me sens plus dynamique, plus fort, je me sens peut-être fatigué, je sens mes muscles plus durs, malgré mes douleurs musculaires, je ressens de l'énergie, peut-être de la chaleur. Voilà, on va lister comme ça l'ensemble des ressentis corporels. Ensuite, j'irai vers les émotions pour savoir quelles sont les émotions que je ressens. Peut-être puis-je ressentir du plaisir, de la fierté d'avoir fait ma séance d'exercice physique. C'est même possible de me projeter vers la 10e séance. C'est un moyen d'aller de manière plus concrète vers une visualisation. Donc elle servira à m'attirer vers une projection de moi-même dans laquelle je pourrai percevoir aussi mes ressentis quand je me regarderai après la 10e séance d'exercice physique. Et puis je réalise que je prends soin de moi et que finalement, c'est un signe qui montre que je m'aime. Je pourrais ainsi aller dans mes pensées, comme j'ai déjà commencé à le faire. Quelles sont mes pensées ? Eh bien, je me dirais que quand je prends soin de moi, je pense ceci et cela, notamment que je m'aime. Je vois que faire de l'exercice physique me procure telle et telle pensée. Je n'aurais pas pensé cela avant. Et je vois que mes pensées ont changé. Je résume. Vous avez besoin d'aimer ce que vous voulez être avant même d'être dans la situation. Que ce soit une chose que vous vivez dans une semaine, dans un mois, dans 6 mois ou dans 5 ans, projetez-vous dans ces situations en commençant à les aimer. Cela veut dire que vous nourrirez cette réalité, vous lirez ces articles sur ce sujet, des magazines, des livres, vous irez vous cultiver, vous abonnerez à des podcasts audio, vidéos, vous inscrirez à des blogs, peut-être à des groupes, peut-être à un club, que vous vouliez mieux éduquer vos enfants, être en mesure de faire preuve de plus d'attention ou profiter de votre conjoint, que vous vouliez être plus attentif à ce que vous disent vos collègues, être plus efficace ou encore être en mesure de mieux vous concentrer au travail, apprenez à aimer et à nourrir cette résolution avec les outils que je viens de présenter. Nourrissez votre nouveau centre d'intérêt en relation avec votre résolution. Vous vous centrerez aussi sur la visualisation, comme on l'a fait à l'instant. Vous pratiquerez la comparaison ascendante en regardant votre position, votre posture physique, et vous centrerez vos perceptions sur vos ressentis corporels, vos émotions et vos pensées. Investissez en vous dans la direction de ce que vous voulez voir émerger dans votre vie. En utilisant le verbe investir, c'est exactement intentionnel, à supposer que vous vouliez avoir une épargne de 6 000 euros dans 6 ans. Ce n'est pas en prenant la bonne résolution d'avoir 6 000 euros dans 6 ans qui fait que vous les aurez. Il faudra passer par des actions. Et pour cela, vous aurez besoin de savoir aujourd'hui ce que vous avez à faire pour arriver à ce résultat dans 6 ans. Dans 6 ans, il y a 72 mois. Donc, si vous voulez 6 000 euros dans 72 mois, vous savez que vous avez besoin d'épargner. Eh bien, pas grand-chose en fait. Si vous êtes en épargne sèche, vous avez besoin de mettre 83, 85 euros par mois finalement. Vous pouvez vous rendre compte que ce n'est pas autant que vous le pensiez. Vous voulez faire en sorte que votre épargne soit plus importante que l'effort produit ? Alors commencez à vous documenter. Vous lirez des livres qui portent sur l'épargne et vous commencerez à vous former pour comprendre comment valoriser votre capital en intégrant une plus-value par exemple. Sans doute regarderez-vous les intérêts et si vous découvrez le mystère des intérêts composés, vous verrez que dans 6 ans, vous n'aurez plus seulement le cumul de 72 fois 85 euros, mais vous aurez le cumul de ce que vous avez investi, plus les intérêts, qui seront encore plus importants, si vous avez utilisé le levier des intérêts composés. Vous voyez que l'on entre dans une dynamique de pensée qui est cohérente avec une projection, une résolution gagnante. Faites la même chose avec votre manière de vivre. Vous voulez être un collègue bienveillant ? À quoi ressemble un collègue bienveillant ? Écrivez à quoi il ressemble. Décrivez ce que vous voyez dans votre posture physique et vos actions. Faites de même pour vos ressentis corporels. Idem pour vos émotions et vos pensées. Voyez ce qui correspond à un collègue bienveillant et dès demain, ou même dès aujourd'hui, commencez. Le soir, faites vos 3 kiffs. J'en avais déjà parlé en parlant du travail de Florence Servan-Schreiber. Notez le nombre de fois que vous avez posé des actions. Sont-elles en relation avec les verbes d'action que vous avez notés ? Ensuite, identifier ce qui correspond à ce qui signifie être un collègue bienveillant. Je parle bien d'action. L'idée est qu'on identifie ce qu'est un collègue bienveillant par l'action. C'est valable si vous voulez être un conjoint à l'écoute ou un parent sensible. Ça peut être le cas si vous voulez être une mère capable de faire preuve de tendre fermeté, mais aussi pour être tout ce que vous voudrez. Ça doit passer par des verbes d'action. 5 ou 6 actions que vous savez devoir mettre en œuvre dans votre journée. Si je choisis d'être un parent plus tendre, j'écrirai les 5 verbes suivants. Prendre mon enfant dans mes bras X fois par jour. Le regarder dans les yeux quand il me parle, être positif et encourageant en lui disant telle ou telle chose, être à son écoute avec bienveillance, le toucher avec un geste de soutien. Voilà, voilà, 5 verbes. Prendre mon enfant dans les bras, le regarder dans les yeux, être positif et encourageant en lui disant quelque chose, être à son écoute avec bienveillance et le toucher avec un geste de soutien. Vous savez que vous mettrez en œuvre ces 5 verbes chaque jour. Vous pouvez choisir d'en pratiquer au moins 3 sur 5 dans chaque journée, jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que certaines actions ont été exécutées sans que vous n'ayez eu besoin d'y penser. À la fin de chaque journée, pensez à faire le point pour vous encourager et vous projeter sur le lendemain. Et vous faites ça chaque jour. Évidemment, les verbes que vous choisirez évolueront au fil du temps, puisque les actions que vous aurez véritablement réussi à intégrer sans même y réfléchir s'annuleront pour laisser la place à de nouvelles actions qui iront dans le même sens. On fait le point dans 6 mois ? Vous verrez que le changement aura été impressionnant. Vous réaliserez à quel point la relation avec votre enfant a changé. Et vous réaliserez aussi à quel point vous avez changé. Vous aurez l'impression de vivre un miracle, mais il n'y aura pas eu de miracle. Vous aurez simplement mis en œuvre jour après jour une résolution que vous aurez placée dans l'action et la projection de qui vous êtes. Dans 6 ou 8 mois, vous vous regarderez en disant « Je ne m'attendais pas à tant de changements. Je ne me reconnais pas. » Et oui, vous serez témoin que l'on peut prendre de bonnes résolutions et les tenir des années. Vous n'aurez plus besoin de prendre la bonne résolution, de tenir vos bonnes résolutions, puisque vous saurez comment faire pour intégrer le changement dans votre vie quotidienne. Vous n'aurez plus besoin d'attendre le 1er janvier. Faites-le si bon vous semble. Mais intégrez cette démarche dans les changements que vous voulez implanter dans votre vie à n'importe quel moment. Vous verrez que vous vous impressionnerez vous-même. En bas de cette émission, je vous mets le témoignage d'Aurélie qui va illustrer ce que je vous ai dit là. Aurélie est une femme que mon épouse a rencontrée. Elle a constaté un tel changement chez Aurélie, ma femme, qu'elle s'est dit qu'elle voulait enregistrer son témoignage pour me faire part de la surprise. Et c'est ce qu'elle a fait. Un soir, elle est rentrée à la maison. Et j'ai entendu ce témoignage et j'ai vraiment été heureux et touché de voir le changement d'Aurélie. Je vous fais le cadeau d'écouter ce rendez-vous témoignage. J'accompagne Aurélie en coach individuel depuis un peu plus de 2 mois. Elle a accepté que je l'accompagne pour évoluer dans sa personne au point de vouloir révolutionner sa vie. Et si vous la rencontrez un jour, ben vous verrez à quel point c'est pour elle une révolution. Elle est en train de vivre une renaissance. Je vous laisse écouter ce témoignage et puis surtout, ce que je voudrais, c'est que vous mettiez en œuvre cette démarche qui consiste à vous projeter et à travailler sur une manière d'être, de penser, de ressentir comme l'a fait Aurélie et de vous regarder pour que vous créiez le bonheur que vous voulez voir dans votre vie, comme Aurélie est en train de le faire. C'est pour ça que je vous mets ce témoignage. Je vous souhaite une belle année, une année dans laquelle vous n'allez pas vous contenter de la théorie. Je vous souhaite de continuer à travailler au-delà de m'écouter en vous disant « Oh, c'est bien, oh, c'est sympa, c'est intéressant ce qu'il dit. » Je veux que vous viviez votre vie, qu'elle soit beaucoup plus belle et beaucoup plus riche que tout ce que je pourrais vous raconter. Maintenant que vous connaissez ma meilleure astuce pour tenir ces bonnes résolutions, il ne me reste plus que vous souhaiter une belle année. Bye bye.
Allez, je mets en route. Donc, tu étais en train de me dire que depuis qu'on se connaît, ça fait plus de... On vient de fêter notre... on ne l'a pas fêté, ceci dit. Ça fait 1 an en novembre qu'on se connaît.
J'ai fait plusieurs thérapies, qu'on m'a rabâché 40 millions de fois les mêmes choses. que je me suis arrêté toujours au même stade en disant ciao, au revoir, et qu'au final, aujourd'hui...
Disons que les thérapies que tu as eues avant t'ont permis de quoi ? De te connaître un petit peu plus, mais tu n'avais pas l'impression d'avancer ?
Elles m'ont confirmé ce que je pensais, surtout.
Sur quoi ? Sur toi ?
Sur moi, sur savoir que ouais, ma mère, on avait trop une complicité, c'était destructeur, qu'elle avait une relation... un truc copine que mon père ouais, était violent alcoolique, bon, ça apparemment je le savais pas, mais voilà, c'était vraiment la base, voilà. Ah ouais, mais ça c'est nickel, c'est que c'était la base. Maintenant
t'as eu des thérapies,
c'était l'arbre,
depuis combien de temps?
C'était l'arbre, comme dirait Pascal. Ouais. Maintenant faut les racines.
Mais tu as vu des thérapeutes depuis, ça fait combien de temps là que tu en fréquentes plein?
J'étais avec ma mère, j'habitais chez ma mère. Oh, 12 ans.
Ça fait 12 ans que tu vois des thérapeutes?
Non, j'avais 12 ans.
Ah, tu ouais, avais 12
fait,
ans.
Ouais, ça fait 12 ans du coup.
Ouais. D'accord.
Ouais. Et la dernière, elle a 12 ans, elle a échoué. Elle a fini par me faire faire les devoirs parce que je voulais pas parler.
Oui.
Et c'était déjà le même combat dans ma tête.
Et Pascal, tu le connais depuis... Ça fait combien de temps maintenant? Depuis...
Ben, 2 mois, sûr.
2 mois, ouais. Que tu travailles avec lui chaque ouais. semaine.
Et que j'ai évolué comme j'aurais jamais pensé évoluer en 2 mois. Et que j'ai fait j'ai ma vie, elle a pris un sens, ou
un autre sens,
disons, que je pensais pas qu'elle allait prendre aussi rapidement, et en faisant qu'une simple thérapie, que vu que maintenant, parce que moi une thérapie c'était vite bâclé, voir un psychologue, lui parler et basta. Sauf que là,
oui. Qu'est-ce qui change avec Pascal depuis ces 2 mois, 2 derniers mois, sur toi, sur ta, enfin sur.
J'ai appris déjà que gérer une émotion existait, que on pouvait gérer une émotion, enfin la controverser. Je sais plus comment on dit, j'ai pas les mots.
Oui, changer petit peu cet état émotionnel.
Essayer de la contourner. Enfin, de la voir autrement, surtout, et j'apprends à me découvrir. C'est compliqué, ça reste un travail dur à faire. Et bon, moi, c'est une envie de. C'est limite une envie de souffrir, parce que c'est. Je vais chercher dans mes. Je vais chercher à chaque fois, chaque émotion que je vais avoir, chaque passage de ma vie. Du coup, je vais devoir stopper, et j'ai l'impression de mettre pause. Je dis, attends, qu'est-ce qui se passe? Mais du coup, ça me fait super avancer au final. Et...
Tu prends un peu du recul sur
voilà.
qui tu es.
J'ai l'impression de mettre pause, de sortir de moi.
Oui.
Je me mets en face.
T'analyses.
Je me dis, bon, attends, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais? Tu prends, tu prends pas, tu fais pas. Comme si je pouvais avoir les commandes. J'essaye de commander l'action qu'il va avoir, ou de la faire.
Ou de la refuser.
Oui, ouais. Et en tout cas, en ce moment, j'essaie de la modifier pour la prochaine fois.
Bon, en tout cas, je te vois plus épanouie. Je te vois à fond dans vouloir changer, évoluer, grandir encore.
Ouais,
pour changer ton mode de fonctionnement, tes modes de fonctionnement, pour arriver à autre chose. C'est
ouais.
ça.
Ah bah oui, là, c'est... Faut garder le cap, parce que... Je sais qu'il il est des fois dur à mener, ce con.
Allez, qu'est-ce que tu veux dire à Pascal, juste pour lui?
Bon, ben merci pour tout, et merci pour le carnet. Merci pour le cadeau de Noël empoisonné. Et bonne fête. Bisous.
Je vous remercie et vous félicite d'avoir été présent à ce rendez-vous. Évidemment, je souhaite que vous viviez et pratiquiez les exercices que vous avez entendus, intégriez les notions que vous avez comprises, et puis que vous puissiez partager avec les gens qui sont autour de vous, aller sur les réseaux sociaux, donner votre avis, poser vos questions, mettre vos commentaires. Vous avez tous les moyens pour faire cela, quel que soit le réseau social que vous utilisez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.